Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est le chef d'entreprise Aziz Seni. Bonsoir.
Bonsoir.
Aziz Seni, première question. J'aimerais d'abord avoir votre sentiment sur le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous qui avez une sensibilité plutôt centriste, est-ce que vous vous reconnaissez dans ses choix politiques ?
Écoutez, il y a un certain nombre de choix qu'il a fait et qu'il a mis en œuvre très rapidement. On ne peut pas dire que ça ne va pas dans le bon sens. La réforme du Code du travail dont nous avions fortement besoin, le positionnement de la France à l'international face à un Trump qui se croit et qui se pense tout permis, on en reparlera peut-être tout à l'heure, un dialogue qui est renoué avec l'Afrique et sous une forme un peu différente de ses prédécesseurs. Non, je crois que la fusée Macron est partie dans le bon angle.
Alors parlons de l'actualité. Un projet de loi en discussion à partir de demain va instaurer le droit à l'erreur, par exemple en matière fiscale, un droit qui concernera notamment les chefs d'entreprise. Ça devrait faciliter la vie des entrepreneurs.
Jusque-là, il y avait une vérité, c'était que l'administration se trompait rarement. Et quand elle se trompait, il fallait, que ce soit d'ailleurs en droit commercial, en droit civil, en droit pénal, pour le démontrer, il fallait toujours déployer de nombreux efforts. C'était coûteux en temps, c'était coûteux en énergie, en argent, les frais juridiques. Là, l'administration reconnaît, premier pas, elle ne reconnaît pas encore qu'elle peut se tromper, elle reconnaît que les gens peuvent se tromper. Donc il y a encore du travail, mais on est dans le bon sens. Et je pense que c'est naturel, parce que l'erreur est humaine. La différence, peut-être, c'est qu'on abandonne peut-être un petit peu ce préjugé, c'est-à-dire de se dire que les gens, a priori, sont de mauvaise foi. Et c'est bien ce message de dire que la majorité des gens, qu'ils soient chefs d'entreprise ou particuliers, bah, c'est des gens de bonne foi et qui peut arriver de faire une erreur. Et dans ce cas-là, on peut corriger et repartir dans le bon cadre.
Et en posant le principe de la bienveillance de l'administration envers les Français, finalement, ça permet à l'administration d'être d'abord, de jouer d'abord un rôle de conseilleur, de conseiller.
J'ai envie de revenir à quelque chose d'assez basique. On paye des impôts pour financer une administration qui doit être au service des administrés, quels qu'ils soient, et qui n'est pas là pour leur taper dessus ou se financer son propre malheur, finalement. Donc oui, effectivement, l'administration est là, il y a de bons éléments, elle doit délivrer un travail de qualité, et je pense qu'elle le fait, même si dans beaucoup de domaines, il y a encore beaucoup de progrès à faire. L'essentiel est bien là, elle le reconnaît, et elle doit être de bons conseils auprès de ceux qui souhaitent être conseillés, et je pense essentiellement à ceux qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer des conseils dans le privé. Il est plus facile peut-être d'aller voir l'administration, les impôts, plutôt que de faire appel à un conseiller fiscaliste. Certains n'ont peut-être pas les moyens de le faire.
Alors, Aziz Seni, la fin du RSI, c'était quelque chose que vous attendiez ?
Alors, la fin du RSI, peut-être pas la fin du RSI, mais moi, j'appelais de mes voeux à une refonte complète, parce que j'ai moi-même été confronté à ce dispositif, à cette organisation qui était vraiment, 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 excusez-moi de l'expression, à la ramasse. J'ai gagné 2 procès face au RSI au tribunal de sécurité sociale. Des calculs de cotisation, mais complètement à côté de la plaque, vous pouviez avoir. Et j'ai eu 2 documents, l'un disant que je ne devais plus rien, que les comptes étaient apurés, puis de l'autre côté, des 15 000, 40 000. Et quand vous demandez, mais comment vous faites les comptes ?
Je sais pas, c'est au doigt mouillé. C'était une source de stress.
Source de stress, parce que vous savez jamais réellement si votre expert comptable, par exemple pour mon cas, si votre expert comptable ne s'est pas trompé, droit à l'erreur, ou est-ce que c'est l'administration qui s'est trompée. Et pour le coup, quand vous avez 3, 4, 5 courriers qui se contredisent, vous dites finalement, c'était de notoriété publique que le RSI, je n'étais pas le seul, je n'étais un cas parmi des centaines de milliers.
Alors, à la veille du forum de Davos, Emmanuel Macron reçoit les patrons des grandes entreprises françaises et internationales dans le château de Versailles. Un sommet baptisé Choose France, c'est pas très francophone, mais c'est destiné visiblement à attirer les grands patrons des multinationales. L'objectif est de défendre l'attractivité de la France. Alors, les partisans d'Emmanuel Macron se félicitent de le voir restaurer l'image de la France à l'étranger. D'autres trouvent tout de même qu'il conforte son image de président des riches. ce type de sommet, ça peut faciliter les investissements étrangers en France ?
Écoutez, on est toujours dans la caricature, soit on a un président des riches, soit un président des pauvres, soit un président... Vous savez, ça me rappelle toujours la pub de la vache qui rit, excusez-moi de faire la promotion d'une marque, Babybel, tiens, il paraît qu'il faut citer plusieurs marques. Donc, c'est toujours trop ceci, trop cela. Là, on a un président qui est dans une dynamique... qui est apaisé, qui se veut le premier commercial de France. Il veut essayer de vendre son territoire et son pays. À qui va-t-il le vendre ? On ne va pas le vendre à l'international ouvrière d'Amérique du Sud ou du Bangladesh ou de l'Inde. On va forcément le vendre à ceux qui ont de l'argent pour pouvoir investir. Et qui sont-ils ? Ils sont peut-être dans ces 140, 150, 160. Il en faudrait d'ailleurs davantage qui pourraient investir en France. Investir, on s'adresse à ceux qui ont de l'argent, à ceux qui réfléchissent à des marchés, à installer des entreprises, à installer des sites de production, dans l'intérêt aussi des emplois locaux. Alors, bien sûr, il y a encore des préjugés concernant la France, le coût du travail, et un certain nombre de paramètres politiques, fiscaux, sociaux, etc. Donc Macron, le président Macron a envie de les lever, et il fait bien, rien de mieux que le dialogue pour pouvoir... lever certaines interrogations et puis séduire, parce que aller chercher des investisseurs, on est dans la séduction, oui, et la compétition est très rude. Faut pas voir uniquement la France, faut voir la France dans un contexte global, international, de mondialisation. La concurrence est rude, il y a les Anglais à côté, il y a d'autres places, il y a la Suisse, pourquoi pas, il y a d'autres places au niveau mondial, il y a l'Asie, il y a l'Amérique du Sud, il y a les États-Unis qui reviennent en force avec une progression économique très très forte. Donc oui, l'Europe et pourquoi pas la France.
Donc on séduit les grands patrons des multinationales en les accueillant au château de Versailles. Est-ce que ça peut être aussi l'occasion de demander aux patrons de Google, de Facebook, de payer leurs impôts en France quand ils réalisent des bénéfices en France ?
Pour le coup, je vais prendre Trump comme exemple. Ce sera peut-être l'un des seuls domaines dans lequel je prendrai en exemple, qui a, par un certain nombre de législations fiscales, a réussi à rapatrier presque 9 milliards à faire payer Apple, par exemple, presque 9 milliards d'impôts supplémentaires aux États-Unis. Oui, bien sûr, ça peut être aussi l'occasion de rappeler et de rentrer dans cette dynamique où, quand on exerce une activité commerciale sur un territoire, bien, ça semble logique que les revenus sociaux et fiscaux puissent revenir au territoire concerné. Et là, bien évidemment, c'est aux politiques de réagir.
Alors, aux politiques de réagir, aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron incarne le leadership européen. Avec le Brexit, évidemment, l'Angleterre est un peu en train de jouer les seconds rôles. Et puis, il y a Angela Merkel, qui est toujours chancelière, mais qui a été considérablement affaiblie. Est-ce qu'aujourd'hui, la France incarne le leadership en Europe ?
Plus que la France, je pense que la jeunesse du président, sa rupture avec la manière de gouverner de ses prédécesseurs, que ce soit Nicolas Sarkozy ou François Hollande, en fait indéniablement un moteur, et peut-être le moteur de l'Union européenne. Maintenant, nous n'avons pas encore les résultats économiques suffisants, la courbe du chômage n'est pas suffisamment redressée, la relance économique et la croissance n'est pas suffisamment pesante pour pouvoir prétendre à un réel leadership, parce que le leadership par l'image est une chose, et il y a bien évidemment le leadership par les chiffres et par le concret.
Alors
et là, nous n'y sommes pas encore tout à fait.
Justement, vous parlez de rupture par rapport à Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est une rupture dans la communication avant tout ?
Nul ne peut dire que nous n'avons pas là un président beaucoup moins excité, beaucoup moins au four et au moulin, beaucoup moins arrogant que pouvait l'être Nicolas Sarkozy. Je ne l'ai pas encore entendu Emmanuel Macron qualifier Édouard Philippe de collaborateur. Nous avons quelqu'un qui n'est pas dans la segmentation et qui n'est pas segmentant, pour reprendre les expressions marketing. Il ne divise pas les Français, au contraire, il cherche à les rassembler, et parfois même de manière assez intéressante. On pourra d'ailleurs en reparler sur l'immigration et la question d'immigration. mais il n'est pas à stigmatiser, à pointer du doigt, mais au contraire à essayer de fédérer, rassembler. Je crois que c'est ce qu'on attend d'abord d'un président, plus que de faire des ruptures entre les différentes composantes de la société qu'il préside, plutôt essayer de trouver ce point commun. Ça passe par les valeurs, bien sûr, mais ça passe aussi par les actions.
Alors, qu'est-ce qu'il peut faire de ce leadership, Emmanuel Macron, aujourd'hui en Europe? Est-ce qu'il peut permettre une certaine harmonie fiscale? Est-ce qu'on peut avoir une politique étrangère commune, une défense commune? Ou bien ça va être encore difficile compte tenu des traités européens qui réclament à tous d'être d'accord pour changer les choses?
Moi, ce que j'attends d'Emmanuel Macron, c'est surtout qu'il puisse d'abord et avant tout défendre l'intérêt des Français dans une organisation plurielle, comme le titre de l'émission. Moi, ce que j'attends, c'est que notre président puisse bien évidemment porter haut et fort et prendre un leadership, qu'il soit régional au niveau européen, mais aussi que sa voix compte plus qu'elle ne comptait par le passé dans le discours dans les voix internationales de tous les pays émergents et qui sont déjà industrialisés pour beaucoup. Moi, ce que j'attends de ce président, c'est d'abord et avant tout qu'il défende nos intérêts, qu'il les défende à Bruxelles, qu'il les défende à l'international, qu'il les défende dans le cadre de stratégies géopolitiques. Bref, qu'il pense d'abord français et qu'il pense ensuite, bien évidemment, nos intérêts, mais qui ne sont pas forcément divergents d'intérêts de nos voisins, qu'ils soient allemands, italiens ou voire de continents voisins, africains. Réfléchir à nos intérêts en trouvant des convergences.
Aziz Seni, vous avez évoqué tout à l'heure la dimension africaine de la politique étrangère d'Emmanuel Macron. Vous avez un attachement au Sénégal, notamment. C'est important de nouer des partenariats avec l'Afrique qui ne soient plus dans la lignée de la France-Afrique. Est-ce qu'on est vraiment en train de se diriger vers ce nouveau monde dans les relations franco-africaines?
Oui, effectivement, je développe quelques affaires en Afrique et en Afrique subsaharienne et particulièrement au Sénégal, mais tout ne peut pas venir du politique. Emmanuel Macron insuffle une dynamique, une administration qui doit suivre, qui doit changer son regard. Et de toute façon, de gré ou de force, elle va le changer pour une simple raison, c'est que le monde n'attend pas la France. Quand vous êtes sur place là-bas, que vous voyez les Chinois, les Coréens, les gens du Moyen-Orient, bref, toute la planète arrivée sur le continent africain et l'Afrique, il n'y a pas une Afrique, mais des Afriques, parce qu'il y a tellement de pays et tellement de cultures et de paysages.
Il y a le Maroc aussi qui sert de lien entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne.
Vous avez le Maroc qui cherche de porte d'entrée, mais l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'Éthiopie ou Djibouti de l'autre côté. Vous avez plusieurs sphères dans l'Afrique, plusieurs mondes. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une mentalité de nos entreprises françaises, et en particulier les grandes, qui s'exportent encore avec des modes à la grand-papa. Et ça ne fonctionne plus. Moi qui suis sur le terrain quasiment tous les mois, je peux vous dire que ça ne fonctionne plus. Parce que les modes de fonctionnement des Chinois, des Arabes d'Arabie Saoudite, du Moyen-Orient, des Coréens, on a les Russes, ils ont une approche beaucoup, beaucoup plus pragmatique. Et le lien historique qui liait la France à cette Afrique, aujourd'hui, elle ne pèse plus grand-chose dans la balance. Aujourd'hui, les Africains, pour reprendre l'expression d'un ministre dont je tairai le nom, sénégalais, qui me disait « mais on n'attend plus des ambulances ou des sacs de médicaments. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer en infrastructure? Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer en transfert de compétences? Qu'est-ce que vous avez à investir chez nous? Voyez-nous comme des lieux où vous pouvez aussi gagner de l'argent, mais pas sans contrepartie. On n'est pas à vendre, on veut du gagnant-gagnant. » Et c'est peut-être là où la vision France-Afrique était complètement dévoyée, c'est qu'il n'y avait qu'un gagnant dans cette histoire et c'était toujours le même. Donc, et vous avez d'autres partenaires aussi qui n'ont pas ces problématiques historiques. Les Chinois, pour citer eux, parce qu'ils sont très dynamiques, n'ont pas de complexe vis-à-vis de l'histoire. Ils arrivent, ils proposent leurs produits. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez payer autrement qu'avec de l'argent. Si vous ne pouvez pas payer tout de suite, on va vous faire les délais qu'il faut. Enfin, d'un pragmatisme, si vous avez 100 euros à investir, eh bien on vous fera votre produit ou votre service pour le budget que vous avez. Si vous en avez 2000, on vous fera un truc de super qualité. Et nous sommes toujours, et je le vois, hein, c'est pas du French bashing où je m'auto-flagelle pas, je le regrette, on a peut-être une capacité à s'adapter à l'autre beaucoup moins forte que peuvent l'avoir ces pays qui ont faim au sens niaque du terme.
Il faudrait que les jeunes Français aillent travailler un peu en Afrique pour importer en France cette nouvelle façon de travailler ?
Je pense surtout que ce sont les entreprises françaises qui devraient réfléchir à leur mode de management, à leur façon de recruter. On a des diasporas très fortes, on a des enfants de l'immigration africaine en France. Et comme les anglo-saxons le font, utiliser ces gens qui sont français, mais qui ont peut-être une attache culturelle différente et qui peuvent être le pont entre ces deux continents. Et là, nous avons une force, mais que les entreprises n'utilisent pas encore, ne savent pas utiliser. Et puis, vous avez aussi les pays d'origine qui ont encore un peu de mal à intéresser leur diaspora pour qu'elles viennent investir dans ces pays-là. C'est dommage parce qu'il y a pas mal d'argent, des Sénégalais à l'étranger, il y en a quelques-uns. Il faudrait que, là aussi, eux, de leur côté, réfléchissent à des actions à mener.
Aziz Seni, en tant que patron, j'ai vu que vous étiez favorable au télétravail. Tous les métiers ne peuvent évidemment pas être concernés par le télétravail. Je pense par exemple au secteur du taxi que vous connaissez bien. Il faut bien être à l'extérieur de chez soi. Pour autant, le télétravail, ça peut être l'avenir ?
Alors, pour le taxi, je ne mettrai pas ma main à couper que d'ici à 10 ans, les choses changent. Hein. Voiture avec chauffeur va arriver. Vous verrez qu'il n'y aura bientôt plus de chauffeur. C'est encore un autre débat. Mais oui, je suis extrêmement favorable au télétravail pour différentes raisons. L'épanouissement des collaborateurs, la possibilité de travailler chez soi, c'est aussi moins de temps de transport, c'est la santé, c'est dormir un peu plus, c'est pouvoir peut-être, pour certains, réduire des frais de garde où on aurait le temps de déposer les enfants à l'école et puis d'aller les chercher un peu sans frais de garde, etc.
Et
puis pour le patron, avoir des collaborateurs qui puissent travailler à domicile. Donc s'ils se sentent mieux, c'est plus productif, je pense. On n'a pas besoin d'être sur site pour des fonctions administratives. Aujourd'hui, ça existe déjà. D'ailleurs, quand vous avez des commerciaux, un bon commercial, c'est pas fait pour être au bureau. C'est plutôt chez le client, chez le prospect. Et il doit être à l'extérieur. Donc qu'il revienne au bureau ou qu'il rentre chez lui pour des fonctions administratives. Aujourd'hui, avec les télécoms, on peut très bien faire standardiste à la maison. On peut très bien faire assistante de direction à la maison. On peut faire expert comptable à la maison. On peut faire service juridique à la maison. Il y a des tas de services. Généralement, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les services support plus que les services de production. Il est difficile de demander à un ouvrier qui travaille sur une chaîne de montage de monter la voiture à la maison.
Vous avez le sentiment aujourd'hui que les chefs d'entreprise sont prêts à un tel changement ?
Bah, je pense que si on leur explique combien ça va leur faire faire d'économie, ils seront très sensibles. Bah, vous réduisez déjà le coût du foncier.
Vous n'avez pas besoin d'un grand bureau, du coup.
D'un grand bureau, vous pouvez rendre un peu plus flexible l'utilisation des surfaces. Donc vous louez une salle de réunion une fois par semaine, vous réunissez qui vous devez réunir, et puis ensuite vous avez votre petit bureau à vous, et vous-même d'ailleurs en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, vous pourriez très bien travailler à la maison aussi, et donner vos rendez-vous dans des espaces de coworking, bref, faire en sorte que ces surfaces soient un peu plus flexibles. Ensuite vous avez toute la partie de ce que je dirais les coûts indirects, la téléphonie, l'électricité, etc., qui seront des coûts réduits, et je vois pas un collaborateur à qui vous dites vous allez travailler chez vous, ça a des avantages. Vous dire non, mais la connexion Internet que j'utilise à toute professionnelle, est-ce que vous pourriez me la rembourser ? Ce serait gagne petit et je ne vois pas les gens dire ça. Donc c'est bien, tout le monde peut s'y retrouver et je pense que les entreprises ont tout intérêt à le faire parce qu'il y a de belles économies, oui.
La semaine de 4 jours, ça vous paraît possible ?
Bon, on peut aller même sur la semaine à un jour. Moi, j'ai toujours été pour que les gens choisissent leur temps de travail. Il y a des gens qui ont envie de travailler beaucoup, il y a des gens qui n'ont pas envie de travailler, il y a des gens qui se plaisent dans leur travail, il y a des gens qui ne se plaisent pas. Je suis pas pour définir un cadre. Il m'est arrivé de travailler 80, 100 heures par semaine. Il m'est arrivé de faire 0 heure par semaine. Ça s'appelle aussi les vacances, les congés. Et je pense que chacun a son rythme. Mais moi, je suis plutôt de ceux qui sont favorables à la carte. Avec un plafond, un plancher, puis chacun choisit son rythme en fonction de ses aspirations.
Alors une question au chef d'entreprise que vous êtes, pourquoi à travail égal, les salaires des femmes sont-ils toujours inférieurs à ceux des hommes ? Est-ce qu'il faut en passer par une loi pour parvenir à une vraie égalité salariale ? Le sujet est toujours à l'ordre du jour en 2018.
Moi je trouve ça extraordinaire et totalement d'un autre temps qu'on puisse distinguer des différences de salaire en fonction du sexe. La production, la productivité, on demande la même chose, alors je vois pas pourquoi on paierait différemment. Moi, je trouve que d'une manière générale sur l'ensemble des discriminations, parce qu'il s'agit quand même d'une discrimination, il faut mettre des mots sur le sujet, je pense qu'on devrait frapper fort au portefeuille, que ce soit des discriminations liées au genre, donc aux femmes, que ce soit liées à la couleur, à l'appartenance religieuse, etc. Je pense qu'on devrait multiplier facile par 10 les amendes, le faire à l'anglo-saxonne, je suis sûr que ça marcherait, les entreprises s'y plieraient, parce que ça coûterait tellement cher, justement, de discriminer, qu'elles mettraient tous les processus en place pour pas que ça arrive. Donc un peu à l'anglo-saxonne, taper au portefeuille. Alors je suis pas pour le tout législatif et tout financiarisé en termes d'amende, mais ça c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Oui, je suis pour cela.
Publier notamment la liste des entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale, c'est une des idées.
Une des idées, mais je suis pas pour les dénoncer dès la première infraction. Pourquoi ? Parce que le droit à l'erreur, parce que le droit à l'organisation ou à la désorganisation, le droit de pouvoir s'être trompé, le droit d'avoir aussi réfléchir à ces process de recrutement. Recruter, j'imagine pas que tous les recruteurs de ce pays sont des chemises brunes derrière un bureau qui veulent pas de noirs, pas d'arabes, pas de juifs, pas de musulmans, pas de femmes, pas d'handicapés, etc., etc. Non, ce sont des gens qui ont aussi une pression, qui veulent pas se tromper, et comme ils veulent pas se tromper, ils cherchent à recruter bien souvent dans des standards. Et donc, c'est à ce niveau-là que ça se joue, donc au niveau de la formation. Donc, plutôt que de dire, on va vous dénoncer tout de suite, demandons un correctif, mesurons si le correctif a bien été en place. Et puis, s'il y a récidive, là, oui. Mais pour la première, donnons quand même le droit à l'erreur à ceux qui peuvent se tromper. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent jamais.
Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel. Nous sommes toujours en compagnie du chef d'entreprise Aziz Seni. Emmanuel Macron a fait appel à Jean-Louis Borloo, dont vous êtes proche, pour lutter contre le chômage dans les quartiers populaires. Parmi les mesures qui ont déjà été annoncées, l'expérimentation des emplois francs. Emmanuel Macron donc a fait appel à Jean-Louis Borloo, qui a déjà travaillé sur ce sujet. C'est quand même un peu étonnant qu'on rappelle les anciens. Qu'est-ce qui se passe ?
Écoutez, c'est pas moi qui vais dire du mal de Jean-Louis Borloo. Hein. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, d'amitié. Un ami fidèle que j'ai rencontré quand il était ministre de la Ville. Quelqu'un qui a une perception des choses et des dossiers totalement différente. Et Dieu sait que j'en ai côtoyé des énarques, mais lui a une approche des dossiers vraiment totalement différente. Et on sent l'expérience de terrain, l'expérience du maire de Valenciennes, l'expérience de l'avocat. Moi, je crois qu'il a bien fait, parce que de l'expérience, je ne suis pas pour le tout jeunisme, je ne suis pas non plus pour le tout senior, ancien, expérimenté. Je crois qu'il doit y avoir un mixte. Si on a un président jeune, qu'il s'entoure de gens aussi un peu expérimentés, ce n'est pas plus mal. Jean-Louis Borloo, c'est quelqu'un qui a fait des choses, qui a créé l'ANRU. Alors bien sûr, tout le monde, chacun peut dire oui, c'était pas suffisant, c'est pas suffisant, ça c'était sur le bâti, etc. Mais il l'a fait. Je pense que si on reprend tous les ministres de la ville qui sont passés sur ce poste depuis Bernard Tapie et jusqu'à Jean-Louis Borloo, eh bien il y en a certains qui ont marqué par leur action et lui en fait partie. Maintenant, lui confier les choses sur les questions de l'emploi, moi je pense que c'est une bonne chose. Il a su faire des choses à Valenciennes. Il a su aussi, quand il est passé au ministère de l'écologie, montrer comment on pouvait mettre un certain nombre d'acteurs dans une même pièce, alors que rien ne présageait qu'on puisse les mettre dans la même pièce. Donc il a cette rondeur aussi, cette capacité de fédérer et de mettre du discours entre les gens, du lien entre les gens.
Vous avez eu l'occasion de parler avec lui depuis qu'il a été nommé par Emmanuel Macron. Si vous le voyez, qu'est-ce que vous lui direz ? Quels conseils vous pouvez lui donner ? Puisque vous connaissez bien le terrain, précisément.
Écoutez, je serai la semaine prochaine avec lui à Mulhouse. Et nous avons eu des échanges que je vais garder pour moi, mais on se retrouve sur plusieurs points et en particulier sur celui du développement économique de nos territoires.
Les emplois francs, ça peut amener des emplois ?
Écoutez, dans un livre qui s'appelle « L'ascenseur social est en panne, j'ai pris l'escalier » que je publiais en 2005, je parlais déjà de ces emplois francs. Nicolas Sarkozy avait dit qu'il les ferait, il ne l'a pas fait. François Hollande avait dit qu'il y passerait, il ne l'a pas fait. Que Macron, président puisse passer à l'action, eh bien, je m'en réjouis. Ce ne sera pas la solution, mais c'est une petite brique supplémentaire pour lutter contre le chômage, dont je rappelle qu'il est 3, 4, 5 fois plus important dans certains de nos quartiers par rapport à la moyenne nationale.
Alors, l'élection d'Emmanuel Macron à Ziceni a pulvérisé les partis politiques, à commencer par le Parti socialiste, qui est obligé de vendre son siège et se prépare à élire son prochain premier secrétaire. Comment analysez-vous la descente aux enfers du PS ? Est-ce que ce parti peut un jour à nouveau gouverner la France ?
Je ne suis pas, dans la prévision ni dans la prédiction. Ce que je constate, c'est que s'il disparaît, c'est qu'il n'a pas su s'adapter et écouter. Il n'a pas su anticiper. Ses cadres n'ont pas vu arriver la vague. D'autres ne l'ont pas vu d'ailleurs, que ce soit à droite ou à gauche. Et c'est peut-être une incapacité, une sclérose trop forte qui a emporté ce parti. Vous dites que c'est un prochain président ou secrétaire général qui va être élu. Moi, je pense que c'est plutôt un liquidateur qui va être élu pour liquider les meubles, liquider l'héritage et partir sur autre chose. La vie politique est en train de se transformer. Il y a une mutation qui se fait de la carte politique, des blocs politiques. Et bon gré, mal gré, c'est un peu comme le milieu économique. Si vous ne vous adaptez pas à ce qu'attendent les gens, eh bien vous disparaissez. Il y a des grandes entreprises qui ont disparu. Eh bien, il y a un grand parti qui s'en va parce qu'il n'a pas su s'adapter à ce qu'attendaient de lui les Français et les électeurs.
C'est la faute de François Hollande ? C'est la faute des frondeurs ?
Bon, c'est la faute d'un peu tout le monde. Hein. C'est la faute de cette direction. C'est la faute de Martine Aubry. C'est la faute de François Hollande. C'est la faute.
Pourquoi c'est la faute de Martine Aubry ?
Quand vous êtes à la direction d'un parti, elle était ténor. Il y en a d'autres. Hein. C'est Martine Aubry qui me vient tout de suite. C'est la faute à Valls. Hein. C'est la faute à Hamon. C'est la faute à tous ces gens-là qui peut-être ont pensé plus à leur carrière qu'à écouter réellement les Français, et plus que les Français, ça a écouté cette mutation de la société dans un environnement globalisé. Et c'est la synthèse entre cette vision locale et cette vision globale internationale qui fait qu'ils se sont plantés. Vous savez, combien de temps il a fallu attendre avant d'entendre parler au Parti Socialiste d'intelligence artificielle, de développement de la santé et de la médecine par assistance informatique, robotique, nanotechnologie. Ils étaient encore très très loin, il n'y avait pas de proposition sur le sujet, alors qu'on est en plein dedans. Il y avait un décalage.
Le revenu universel de Benoît Hamon, vous regardez ça de haut avec mépris ou bien ça peut au contraire être un sujet intéressant ?
Bon, vous savez, vous pouvez avoir une bonne idée mais portée par la mauvaise personne, ça existe aussi. Donc c'était une bonne idée, c'est une bonne idée de toute façon, de gré ou de force on va y arriver. L'intelligence artificielle va mettre tellement de gens sur le carreau, très clairement pour parler très direct, sans langue de bois. Le revenu universel, on va y arriver de gré ou de force. Maintenant, est-ce que Benoît Hamon était la bonne voix pour porter cette proposition ? Je ne le crois pas. Je pense que le PS a fini de s'enterrer en ayant un candidat de substitution, un candidat presque par défaut.
À Ziceni, à droite, ça ne va pas très bien non plus. Plusieurs personnalités ont quitté les Républicains après l'élection de Laurent Wauquiez. Et Alain Juppé, lui, a cessé de payer sa cotisation. Vous qui avez une sensibilité centriste, vous êtes heurté par la ligne Wauquiez ?
Heurté, non, parce que c'est un choix, et puis c'est pas une surprise. Je me souviens de Marion Maréchal Le Pen qui disait qu'elle avait des choses à faire avec Laurent Wauquiez. Et c'est pas une surprise si des gens qui se disent traditionnellement héritiers du gaullisme social ou gaullistes tout court quitte un navire qui ne leur ressemble plus. Je rappelle quand même que en 2013, un sondage montrait que 62% des adhérents de l'UMP, à l'époque, étaient favorables à des accords locaux avec le Front National. Donc on a un bloc conservateur qui est en train de se créer. Le Front National, de son côté, est en train de réfléchir à changer de nom. Dupont-Aignan a été le premier conscient ou inconscient à franchir le fameux cordon sanitaire vanté par Chirac. Bon, les choses sont là encore en train de muter, de changer, de se transformer. Est-ce que pour autant ce sera un succès ? Moi, je ne le crois pas. Je crois que la France n'est pas conservatrice à ce point, n'est pas raciste, n'est pas xénophobe. Je crois que la France a pour partie peur. Et je crois que si par l'action, on arrive à démontrer aux Français que les choses peuvent changer, les Français redeviendront sereins. Et alors, il y a les extrêmes qui disparaîtront.
Alors, vous êtes plutôt optimiste. Mais si Emmanuel Macron échoue, est-ce que le risque, ça n'est pas de voir le Front National ou la France insoumise constituer les seules alternatives, puisque les Républicains et le Parti socialiste sont très faibles aujourd'hui?
D'abord, est-ce que je pense que Emmanuel Macron va échouer? Je ne le crois pas. Je pense qu'il est bien parti pour réussir.
Il est là pour 10 ans, comme disent certains.
Oh oui, il est là pour deux mandats, oui. Oui, oui, je pense qu'il est là pour deux mandats. On a vu ce qu'il a pu faire passer, la réforme du Code du travail. Il y a aussi, j'ai le sentiment que les Français ont envie que ça change. Les mobilisations dans la rue, la CGT en perte de vitesse. Il y a un certain nombre de signes qui montrent que on se dit, bon, on va quand même laisser faire, on va quand même laisser les choses se changer, parce que on commence à toucher le fond de la piscine là, et on va bientôt se mettre à creuser. Donc il y a quand même une prise de conscience, à mon avis, hein, des Français. On a vu aussi les Français ont de la mémoire, dans certains cas. Le Front National, comme solution, on a vu ce que Marine Le Pen est capable de faire dans un débat au deuxième tour. Donc avant de retrouver une crédibilité avec ce parti où M. Philippot fait ses choses dans son coin, etc., là aussi, il y a encore un peu de travail de réorganisation, parce que la dynamique qui a été celle de ces dernières années n'est pas prête de revenir. On a aussi un président qui n'est pas là pour souffler sur les braises de la haine. Il est plutôt apaisant, contrairement à Nicolas Sarkozy, par exemple. Donc, on n'a pas un ventilo qui tourne sur les braises de la haine. Donc, c'est pas mal, ça aussi. Donc, non, moi, je crois pas qu'il va échouer. Je crois qu'il va construire. Je pense que les trois blocs avec des progressistes au centre-gauche, centre-droit, la réunification des radicaux de gauche avec les Valoisiens, tout ça montre une dynamique et une nouvelle carte qui est en train de s'organiser et qui n'est pas plus mal d'ailleurs.
Est-ce que Jean-Luc Mélenchon joue un rôle utile à l'Assemblée nationale?
Si des électeurs ont voté pour des députés de la France insoumise, c'est qu'ils ont forcément, ils représentent forcément une sensibilité, et donc dans ce sens, ils sont utiles. Après, moi, Jean-Luc Mélenchon, c'est plutôt la version stand-up de la politique, donc plus dans le show, une sorte de Georges Marchais 2.0, où on rigole beaucoup, il y a beaucoup d'effets de manche. Je me souviens sur la baisse des APL, les pâtes et le riz posé à l'Assemblée nationale pour montrer ce qu'avaient perdu les étudiants. Aux sorties des coups de com', la dynamique là aussi s'est un petit peu essoufflée. Je ne vois plus ce qu'il propose concrètement. Je serais même aujourd'hui, là tout de suite, incapable de vous donner une idée, une proposition qu'ils ont faite récemment intéressante et qui m'aurait accroché.
En tout cas, cette semaine, la France insoumise va déposer un projet de loi pour instaurer un récépissé lors des contrôles policiers. Ça, vous pourriez y être favorable.
Cette proposition avait déjà été déposée par un sénateur, Di Borgo, un sénateur centriste, et s'était vu refuser. Alors que M. Mélenchon reprenne une proposition centriste, je m'en félicite.
Aziz Seni, qu'est-ce que vous pensez de la trajectoire de Manuel Valls? Vous l'avez déjà un peu critiqué tout à l'heure. Manuel Valls, qui a quitté le PS et tient depuis des propos qui sont souvent critiqués sur la laïcité ou encore hier sur l'immigration.
Vous savez, moi, je fais partie de ces gens qui rêvent un jour que nos politiques s'inspirent un peu plus de la dimension anglo-saxonne de l'action politique. Monsieur Valls a fait son parcours. Il est arrivé au plus haut de ce qu'il pouvait, Premier ministre. Il a eu les mallettes, quasiment les pleins pouvoirs pour agir. Et puis, il a échoué. Il aurait été de bon ton qu'il parte à la pêche, qu'il passe la main, qu'il parte en retraite, qu'il forme, qu'il transmette, qu'il trouve un héritier, quelqu'un à qui il pourrait aider, accompagner, coacher, parrainer. À cela, il préfère revenir donner des leçons. Moi, je trouve ça complètement déplacé, pas du tout crédible. Et puis, cette façon marketing d'essayer de se trouver une petite place sur cette segmentation politique avec un discours très pro-laïque, très... Allez, osons les mots, anti-islam quand même. Je trouve ça médiocre et je ne sais pas qui le conseille en communication, mais vraiment sur cet angle-là, il trouvera toujours mieux. Vous avez des Wauquiez, puis un peu plus à droite, vous avez des Dupont-Aignan, vous avez des Le Pen qui feront toujours mieux que lui sur ce créneau. Donc si j'ai un conseil à donner à M. Valls, partez à la retraite. Et si vous ne voulez pas, changez de créneau parce que c'est déjà pris ça.
Aziz Seni, sur la question de l'immigration, Emmanuel Macron se veut à la fois ferme et humaniste. Est-ce que ça vous paraît possible ?
Oh bah ça me paraît possible, bien évidemment que ça nous, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'on doit accueillir tous les immigrés qui souhaitent quitter leur pays? Je ne crois pas. Est-ce qu'on a un devoir d'humanité vis-à-vis de ceux qui quittent leur pays pour des raisons de guerre? Parce qu'ils risquent leur vie? Je crois que oui. Et c'est dans ce sens où je pense qu'il y a une distinction à faire entre les différentes formes d'immigration. L'immigration économique, vu la situation de notre pays, c'est compliqué. Il y a une alternative. C'est une vraie politique de co-développement en partenariat Nord-Sud avec les pays d'origine. Et on revient à ce que nous disions au départ, c'est-à-dire cette nouvelle forme d'investissement et d'accompagnement dans, les intérêts, dans des intérêts bilatéraux. Là, il y aurait quelque chose à faire. Maintenant, accueillir des Syriens, des réfugiés libyens, moi je trouve que c'est tout à fait naturel et normal. Il y a danger, il y a... Non, et si nous ne le faisons pas, il y aurait non-assistance à personne en danger. Donc oui, la France doit garder cette dimension humaniste, accueillir celui qui est en danger de mort.
Accueillir celui qui est en danger de mort, Aziz Seni. L'écrivain Yann Moix a publié une lettre à Emmanuel Macron dans laquelle il affirme, je cite, que des actes criminels envers les exilés sont commis à Calais. Je cite sa lettre, « J'affirme, Monsieur le Président, que des fonctionnaires de la République française frappent, gazent, caillassent, briment, humilient des adolescents, des jeunes femmes et des jeunes hommes dans la détresse et le dénuement. Comment réagissez-vous aux accusations de cet écrivain ?
Il y a sûrement une réalité de terrain et bien évidemment, on a probablement des policiers, des fonctionnaires qui font mal leur travail. La police est à l'image de notre société avec ses travers, ses défauts. Il y a régulièrement, de temps en temps, des bavures, des gens qui ne font pas leur travail dans cette administration comme dans d'autres, comme dans certaines entreprises aussi. Donc il faut les pointer parce qu'ils ont une responsabilité encore plus forte. Mais il faut quand même faire attention à ne pas laisser croire qu'il s'agit d'une politique globale, que c'est un État qui institutionnalise une réprimande à l'égard d'immigrants, de migrants, pardon, et ne pas laisser croire que c'est des ordres du préfet ou du ministre de l'Intérieur qui disent qu'il faut absolument réprimander ces migrants. Donc, distinguer les initiatives, aussi tordues soient-elles, aussi répréhensibles soient-elles, de fonctionnaires de police sur le terrain, et les ordres et les directives. Maintenant, j'espère que le préfet fera son travail et diligentera une enquête localement, et surtout communiquera le nom et punira de manière très sévère ceux qui salissent leur uniforme, parce que la police, elle est là pour protéger, elle n'est pas là pour réprimander de pauvres personnes qui viennent chercher une terre meilleure.
Aziz Seni, le vice-président américain, a annoncé ce lundi, dans la foulée des déclarations de Donald Trump, que l'ambassade des États-Unis serait transférée à Jérusalem avant la fin 2019. Dans le même temps, le président Mahmoud Abbas appelle l'Union européenne à reconnaître l'État palestinien. Quel regard portez-vous sur la situation actuelle au Proche-Orient ?
Pour comprendre la situation au Proche-Orient, je pense qu'il ne faut pas justement regarder au Proche-Orient. Trump ne fait pas de la politique pour le monde, il ne fait pas de la politique pour le Proche-Orient, il fait de la politique pour lui-même. Il fait de la politique pour son électorat intérieur, il fait de la politique pour sa prochaine élection. Et quand on regarde les choses de cette manière-là, on s'aperçoit que finalement, ces décisions, elles ne sont pas très orientées pour la paix civile, pour la paix du territoire, pour la paix locale. D'ailleurs, c'est globalement toutes les décisions américaines qui vont dans ce sens-là, depuis l'Irak et l'invasion de l'Irak, jusqu'à encore aujourd'hui sur cette décision. Maintenant, il y a aussi d'autres paramètres. Je ne pense pas que M. Trump aurait pris cette décision sans l'aval de l'Arabie Saoudite, par exemple. On a d'ailleurs entendu dire ici et là, par le relais de la presse, que le prince saoudien avait donné son accord pour cette reconnaissance et que par ailleurs, on puisse proposer une autre ville et un autre lieu pour une capitale palestinienne. Donc Trump ne se fait que le porte-voix de quelque chose qui se passe en coulisses et qui est d'abord dans l'intérêt de son électorat intérieur. Ensuite, est-ce que l'Europe doit reconnaître de manière unilatérale? Est-ce que c'est l'intérêt de l'Europe? Moi, je pense que oui. Est-ce qu'elle devrait le faire? Oui. Nous ne serions pas, et je ne serais pas le premier à le dire, il faudrait reprendre un discours, et Dieu sait que je ne suis pas de son courant politique, un échange qu'avait eu Daniel Cohn-Bendit à Bruxelles quand il était député européen, et il demandait déjà à l'époque de faire de la politique et de reconnaître de manière unilatérale l'État palestinien et la capitale palestinienne, pour moitié Jérusalem. Je ne sais pas si les dirigeants européens auront le courage de le faire. Moi, je pense qu'ils devraient le faire. Et si l'Europe, et en tout cas la France, ne trouve pas de partenaire au sein même de l'Union européenne, je pense que des alliances avec d'autres pays seraient tout à fait souhaitables. Je ne sais pas ce qu'en pense la Russie, je ne sais pas ce qu'en pense la Chine, je ne sais pas. Mais je suis sûr que sur ce sujet, il pourrait y avoir un certain nombre de convergences.
Merci Aziz Seni. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.